Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, et comme tous les mercredis de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. Radio Canus 102.2, on vous le disait, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, vous êtes à l'écoute d'Idées Noires. Idées Noires, c'est l'émission de l'UCL, l'Union communiste libertaire. On est ensemble pour une heure d'actualité sociale, politique et autres. Et autant vous dire que l'actualité est particulièrement chaude bouillante ce soir. Plein de choses à aborder avec vous. Bien évidemment, vous vous en doutez, on est en pleine bataille sociale sur la mobilisation sur les retraites. On va revenir sur l'énorme mobilisation sociale qui a eu lieu hier à travers toute la France. On va revenir bien évidemment sur les prochains rendez-vous de lutte et sur les perspectives qui s'offrent et qui s'ouvrent à ce mouvement social. Ça va consacrer une bonne page de cette émission. Bien évidemment, on est le 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes. On va évoquer les initiatives qui ont eu lieu aujourd'hui. On vous en a déjà beaucoup parlé la semaine dernière dans cette émission Idées Noires pour appeler à la mobilisation. Mobilisation qui se fait en convergence en plus avec la mobilisation sur les retraites. On va revenir sur ce qui s'est passé à Lyon en ce 8 mars et puis donner quelques éclairages sur la pertinence et la nécessité toujours des luttes pour le droit des femmes et des luttes féministes. Et puis dans cette émission Idées Noires, on aura aussi, et ça c'est une très bonne nouvelle, des invités, puisque on a deux camarades du collectif Solidarité Migrants Croix-Rousse qui viendront prendre l'antenne à la mi-temps de cette émission, aux alentours de 20h30, peut-être un petit peu avant, pour nous parler des dernières initiatives du collectif Migrants Croix-Rousse, et notamment pour les habitants et habitantes de ce quartier. Vous avez peut-être déjà remarqué l'ouverture d'un nouveau squat rue Néret sur les pentes de la Croix-Rousse. On aura toutes les explications, les raisons du pourquoi, et puis toute l'actualité chaude de la question de la solidarité avec les migrants au cours de cette émission avec les gens du collectif. Voilà, ça c'est le programme, mais pour commencer, on a déjà quelques annonces, quelques rendez-vous traditionnels, notamment en ce qui concerne la vie de l'UCL et de sa librairie La Plume Noire, et puis l'activité militante. Et pour ça, c'est le camarade Rémi à qui on va céder la parole, qui va nous en faire part.
Bonsoir. Ça fait beaucoup parler récemment, notamment grâce à la résistance qui s'est organisée contre un de ces projets à Sainte-Soline, les mégabassines. Alors les mégabassines, c'est quoi ? Je vous livre la définition de Greenpeace. Ce sont de gigantesques stockages d'eau destinés à répondre aux besoins de l'agro-industrie, notamment en période estivale. Il s'agit d'énormes bassins artificiels, plastifiés et imperméables. Donc pompage de nappes phréatiques, impact sur la biodiversité et les milieux naturels, ces grandes réserves d'eau ne sont pas une aussi bonne idée que ce qu'elles ont dans l'air. Surtout qu'elles soutiennent le développement d'une industrie massive et dévastatrice. Donc en vue de la mobilisation internationale qui aura lieu les 25 et 26 mars prochains, une réunion d'information publique sur la lutte en cours contre les mégabassines aura lieu ce samedi 11 mars à La Plume Noire, 8 rue Diderot, à partir de 18h. La discussion sera animée par le collectif Soulèvement de la Terre. Alors attention, vous avez peut-être déjà lu sur les réseaux qu'elle commençait à 17h, mais en raison de la manifestation de ce 11 mars, l'événement est décalé à 18h. On a donc fait en sorte que l'horaire colle pile avec la fin de la manif, donc n'hésitez pas à passer. L'événement est ouvert à tout le monde et nous proposons, comme toujours, notre petite tirelire si vous souhaitez soutenir la caisse de grève féministe.
à la librairie La Plume Noire, la librairie animée par les militants et militantes de l'UCL, comme tu l'as dit, 8 rue Diderot sur les pentes de la Croix-Rousse. On ne l'a pas rappelé, mais traditionnellement, la librairie est ouverte le mercredi de 17h30 à 19h30, et puis le samedi de 15 à 19h. Ce samedi, en raison en effet de la manifestation contre la réforme des retraites, il y a fort à parier que la librairie ouvrira un peu plus tard ses portes, seulement pour l'événement, pour cette rencontre, débat, discussion autour de la lutte contre les méga-bassines et leurs conséquences environnementales.
C'est ça, aux alentours de 17h, probablement l'ouverture de La Plume.
Bah, tu as déjà introduit le sujet en abordant la question de la mobilisation contre les retraites. En effet, on va en reparler, mais le prochain grande mobilisation populaire, c'est en effet ce samedi. C'est ce samedi 11 mars, à travers toute la France. Manifestation populaire pour continuer à amplifier le mouvement. Et à Lyon, il y aura une manifestation qui est appelée à 14h, place Jean Massais, en direction de la gare des Brotteaux. Ça, c'est la première initiative. Il y aura d'autres initiatives auxquelles on va parler. Je crois que tu as un rendez-vous, une fête de la grève à évoquer. Ça, c'est plutôt dans les points positifs. Et puis, dans les points négatifs, il y a aussi la répression. Le mouvement se durcit. La répression qui frappe les militants, et notamment les militants et militantes de l'UCL.
C'est ça. Donc, on commence par la bonne, l'initiative heureuse. C'est ce 15 mars de 18h30 à 22h30 au CCVA de Villeurbanne, le centre culturel et de la vie associative. C'est les coordinations éducation en lutte de Villeurbanne et Vaux-en-Velin qui organisent Fête la grève numéro 2, un événement en soutien au secteur en lutte, donc le rail, les raffineries, l'éducation. C'est la deuxième édition après celle organisée en janvier 2020, également contre la réforme des retraites à l'époque. Au programme, donc mercredi prochain, concert, prise de parole, à manger et à boire, et potentiellement donc une table de presse de La Plume Noire, la librairie autogérée par l'UCL, comme tu l'as dit, avec des livres et des numéros de notre journal de l'UCL, Alternative Libertaire, en vente.
Fête de la grève numéro 2, parce qu'en effet, en 2019-2020, lors de la précédente mobilisation sur les retraites, les collectifs de Vaux-en-Velin, Éducation et de Interpro et de Villeurbanne avaient déjà organisé une fête de la grève dans les mêmes lieux, mêmes locaux, à l'issue d'une manifestation au Flambeau. Fête de la grève qui a été une véritable réussite, puisque la salle débordait tellement que tout le monde n'avait pas pu rentrer. Ouais. En tout cas, c'était l'occasion d'un moment convivial et festif ensemble, parce que c'est bien la lutte. C'est bien la fête aussi, et c'est bien parfois de pouvoir fêter la lutte tous ensemble pour se donner un peu plus d'énergie pour la continuer.
Et là, même si notre présence reste à confirmer, suivez l'UCL Lyon sur Twitter et Instagram pour être tenu informé. Mais qu'on y soit ou pas, n'hésitez pas à y aller, les bénéfices seront reversés aux caisses de grève. Donc ça, ce sera le mercredi 15 mars, 18h30, 22h30. Au CCVA de Villeurbanne, 234 cours Émile Zola, près du métro Flachéau.
C'est tout simplement mercredi prochain. Et pour une fois, on vous excusera si vous écoutez pas Idées Noires. Mmh. Mais on vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur la page, internet de l'émission, sur le site de Radio Canu. En général, dès le lendemain, elle est en ligne. Donc vous aurez tout loisir d'écouter les informations d'Idées Noires dès le lendemain, après avoir participé à cette fête de la grève.
Et donc le point négatif de la mobilisation en cours, ce sont des camarades qui ont été arrêtés hier. Ce mercredi 7 mars, avant le début de la manifestation parisienne contre la réforme des retraites, deux camarades des groupes de l'UCL Grand Paris Sud et de Montreuil ont été contrôlés préventivement par la police alors qu'ils installaient le point fixe de l'organisation sur le trajet de la manif. Sans raison valable et sous des prétextes fallacieux, ces deux camarades ont été emmenés pour une soi-disant vérification d'identité avant d'être embarqués au commissariat du 5e arrondissement et mis en garde à vue. Suite à cette arrestation, un groupe de plusieurs organisations de gauche et de syndicats s'est rendu au commissariat pour exiger la libération de nos camarades sans que les flics n'acceptent de les recevoir. À 23h, nos deux camarades n'étaient toujours pas sortis, et ce, alors même qu'aucune raison sérieuse n'était retenue contre eux. Alors même que la manifestation du 7 a été la plus massive de ces dernières décennies et que les grèves et blocages se durcissent dans tout le pays, la seule réponse de l'État est celle de la répression aveugle et ridicule contre des militants et militantes politiques et syndicalistes. Ils espèrent nous briser, mais notre seule réponse est l'unité et la solidarité. D'ailleurs, un rassemblement a eu lieu aujourd'hui à midi devant le commissariat du 5e arrondissement de Paris. Mais malheureusement, nous n'avons pas plus d'informations à l'heure actuelle. On espère que leur garde à vue ne va pas trop durer.
Et puis cette info, malheureusement, qui peut que nous attrister, nous révolter, elle est significative du durcissement du mouvement. Si la détermination populaire sur cette question des retraites, elle est de plus en plus forte, parce qu'on a vraiment l'impression d'être pris pour des imbéciles, eh ben on se rend compte, et on l'a vu aussi hier dans les rues de Lyon, que face à ça, le pouvoir a tendance à durcir sa répression et son encadrement sur les manifestations, et puis sur justement les militants qui pouvaient être actifs.
Le pouvoir panique en ce moment, on le voit.
Le pouvoir panique, on le sait. L'opposition à ce projet de réforme est de plus en plus fort. Que les sondages qui sont tout relatifs, on le sait, néanmoins cessent de confirmer que la très large majorité des salariés sont profondément opposés à cette réforme. Et puis tout simplement, la rue. La rue le fait entendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à un mois et demi du début de cette mobilisation qui a commencé fin janvier et que les manifestations sont d'ampleur systématiquement et que le pouvoir qui aurait pu parier sur l'usure, sur la désorganisation et dispersion durant les périodes de vacances scolaires, eh ben, ça n'a absolument pas été le cas puisque hier, mardi 7 mars, c'était une nouvelle journée qui était très attendue, qui devait donner le ton à savoir si cette mobilisation elle était toujours active et importante ou si au contraire elle s'était essoufflée. Et ben la réponse on l'a eu dans la rue, le pouvoir l'a eu, ça a été tout simplement la plus grosse journée de grève et de manifestation qu'il y a eu depuis le début du mouvement. Alors il y a toujours la bataille des chiffres, hein, le ministère de l'intersyndicale nationale parle de près de 3 millions de personnes qui sont descendues dans la rue, la police elle parle d'1,5 million, peu importe que ça soit l'un ou l'autre. C'est des chiffres qui sont monstrueux. De nombreux gouvernements ont flanché et ne sont pas restés droits dans leurs bottes à de nombreuses reprises lorsque, à plusieurs fois, plus d'un million de personnes battaient le pavé et descendaient dans la rue. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a un gouvernement complètement braqué, complètement arc-bouté sur son projet de réforme et de démolition sociale, qui est incapable d'entendre la colère populaire et la colère de ces millions de salariés qui descendent dans la rue et qui font grève, et qui tête baissée au forceps, tente et fait poursuivre l'étude de sa loi actuellement au Sénat avant qu'elle revienne à l'Assemblée nationale avant son adoption, dans une logique jusqu'au boutiste. Et ce qu'on peut espérer, c'est que ce mouvement qui a pris une nouvelle tournure hier et qui a réaffirmé son intensité, lui aussi, il augmente d'intensité et il ne lâche rien. Et je crois qu'il est important maintenant de passer à une étape supérieure dans ce mouvement. On n'est plus dans le cadre pour faire plier le gouvernement d'une simple mobilisation populaire et d'opinion. Si l'opinion massive contre ce projet de réforme des retraites suffisait à faire plier le gouvernement, on le saurait. On l'a dit, les sondages d'opinion l'expriment très clairement. Le nom La Rue le dit très clairement. Personne ne veut de cette retraite. Personne de ce projet de réforme des retraites. Personne ne veut être exploité et être usé un peu plus dans le monde du travail 2 ans supplémentaires. Mais ça ne suffit pas de le dire, ça ne suffit pas de descendre dans la rue pour faire entendre le gouvernement. Peut-être que la seule façon réellement de le faire plier, c'est que le MEDEF, que le patronat siffle la fin de la récréation parce qu'il va y avoir des conséquences et du désordre économique trop important dans les jours qui arrivent. Ça a commencé déjà depuis le début de semaine, la multiplication des actions de blocage, la multiplication des reconductions de grève, la multiplication d'atteintes à des sites économiques stratégiques. On peut souligner ce matin à Lyon, par exemple, le blocage par des militants syndicaux du port Édouard Herriot à Lyon, de 4h30 à 9h30 du matin, qui a été une action réussie. On peut souligner de nombreuses raffineries qui sont à l'arrêt, la centrale hydraulique de Cusset, qui est elle aussi en grève reconductible depuis hier, et de nombreux autres secteurs de salariés qui ont décidé de poursuivre la grève demain, jeudi, au moins, pour hausser le ton dans cette mobilisation. Et je crois que c'est ce qui est nécessaire et qu'on ne peut inciter que tous les salariés qui le peuvent, qui sont mobilisés, qui ont la possibilité de tenir des assemblées générales, de discuter avec leurs collègues de travail, de se mobiliser et qui étaient même dans la rue hier, à tenter de durcir le mouvement, à tenter d'hausser le ton, à tenter de reconduire la grève partout où c'est possible, parce que c'est la seule façon qui nous permettra de faire plier le gouvernement si le patronat, en effet, siffle la fin de la récréation et considère que tout ceci est trop problématique, que finalement cette réforme, qui est une réforme purement structurelle de la part de l'État à objectif budgétaire, mais qui n'est pas d'un intérêt immédiat pour le patronat, mais que par contre dans le rapport de force l'économie est trop impactée aujourd'hui, et bien peut-être que le MEDEF sifflera la fin de la récréation en demandant au gouvernement, dont on sait très bien qu'il n'est que le représentant de ses intérêts, d'abandonner, de lâcher l'affaire et de lâcher cette réforme. C'est à ce niveau de la mobilisation qu'on en est pour l'instant. Il ne faut pas se leurrer. Si on continue simplement à faire des grèves d'opinion, des manifestations d'opinion, le mouvement risque de perdre et ça serait un recul pour notre classe sociale, ça serait un recul pour le mouvement social dans son ensemble. Par contre, l'important, c'est en effet d'obtenir une victoire, de faire aujourd'hui, de hausser le ton, de bloquer l'économie, de multiplier les actions, les manifestations de masse, les actions de blocage, les grèves reconductibles, afin de faire pression sur l'État et le gouvernement pour pouvoir faire reculer, gagner et faire reculer, abandonner ce projet de réforme. Et c'est ce qui ferait le plus grand bien au mouvement social et à notre classe. Ça serait une victoire importante pour le mouvement social et qui mettrait peut-être, en tout cas, momentanément, un coup d'arrêt aux logiques libérales et de démolition sociale qui frappent le monde du travail, qui frappent les services publics, qui frappent la sécurité sociale depuis déjà quelques temps. Voilà, la grève, elle s'organise. La grève, elle se rythme de temps fort, de mouvement. On vous a évoqué les prochains rendez-vous de manifestations interprofessionnelles et populaires. C'est ce samedi. C'est ce samedi 11 mars, manifestation à Lyon qui aura lieu à 14h, place Jean Massé, en direction de la gare des Brotteaux. Et puis, on sait que la semaine prochaine, il y aura une nouvelle journée de grève interprofessionnelle, qu'on espère encore une fois massive, avec certainement une manifestation qui partira de nouveau de la manufacture du tabac. Il y a de fortes chances qu'elle soit mercredi 15 mars, mais ce n'est pas sûr encore, puisque l'intersyndicale souhaite que cette manifestation se tienne le jour de la tenue de la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, c'est-à-dire... Une fois que le Sénat aura fini d'étudier la loi et que celle-ci s'apprêtera à retourner à l'Assemblée, il y a une commission d'harmonisation qui doit se tenir, qui doit avoir lieu mardi, mercredi ou jeudi, selon comment avancent les débats. Il semblerait que ça soit la journée de mercredi qui a été programmée, mais ça sera confirmé en début de semaine, mais ça sera une nouvelle journée de mobilisation. Ce qui n'empêche que d'ici là, comme je disais, il faut reconduire partout où c'est possible, il faut multiplier les actions, il faut organiser, il faut populariser cette grève, à l'image de ce qui se passera mercredi prochain au CCVA de Villeurbanne, cette fête de la grève, mais aussi ce qui peut se passer dès demain, puisque dès demain, la jeunesse, notamment, appelle à descendre dans la rue. Demain, il y a deux rendez-vous clairement affichés pour les personnes qui sont en grève. D'une part, un rendez-vous pour les personnels de l'éducation à 14h devant le rectorat de Lyon, un rassemblement en soutien aux AESH et aux personnels précaires de l'éducation nationale qui peuvent en effet se faire beaucoup de soucis pour le niveau de retraite auquel ils pourront espérer. Et puis à la même heure, à 14h, place Jean Massé, il y a une manifestation qui est appelée par la jeunesse étudiante et lycéenne auquel s'est joint les travailleurs de l'enseignement supérieur et de la recherche et tous les secteurs professionnels qui seront en grève et qui ont reconduit aussi à se joindre à l'issue de cette manifestation pour défiler derrière la jeunesse. On espère bien sûr que ce cortège attendra que les personnels de l'éducation nationale puissent se joindre à eux aussi pour ensemble converger, pour manifester de Jean Massé à la place Guichard jusqu'à la Bourse du Travail demain après-midi. Donc demain, on rappelle quand même qu'il y a des préavis de grève reconductibles, interprofessionnels, qui sont déposés par toutes les organisations de l'intersyndicale, qui couvrent tous les salariés. Le droit de grève, c'est un droit. Il s'use que si on n'en use pas. Donc, faut pas hésiter. Demain, tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui peuvent, demain matin, même si vous n'avez pas fini de convaincre vos collègues, à la prise du boulot, on interpelle les collègues, on en discute, on débraye, on est protégé, on va sur les actions, on rejoint les mobilisations et on participe à durcir le mouvement et amplifier la mobilisation. Voilà, c'est comme ça qu'on gagnera. On l'a dit déjà sur cette antenne, c'est pas qu'il faut gagner, c'est qu'on doit gagner parce que c'est important pour l'avenir de tous les salariés. C'est important aussi pour l'état du mouvement social et pour faire reculer les logiques de démolition sociale d'ensemble. On vous parlait des actions qui auront lieu demain, mais on va terminer cette page sur les retraites et qui fera une excellente transition en parlant des actions qui ont lieu aujourd'hui, ce 8 mars. Vous savez que c'est pas une date anodine puisque le 8 mars, contrairement à ce que beaucoup voudraient nous faire croire, c'est pas la journée de la femme, c'est pas comme la fête des mères décidée par le maréchal Pétain. La journée de la femme, c'est une récupération commerciale et médiatique pour atténuer la dimension de cette journée. Le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes, et ça, il faut pas l'oublier. C'est pas la même chose. C'est une journée de lutte, c'est une journée de mobilisation, c'est une journée internationale. Les femmes, elles se battent partout dans le monde depuis maintenant plus de 100 ans, puisque il y a 100 ans, le 8 mars 1917, c'était les travailleuses de Saint-Pétersbourg en Russie qui s'étaient mis en grève et qui manifestaient pour réclamer du pain et la paix en pleine Première Guerre mondiale, et que à leur initiative, allait se déclencher un des plus grands mouvements révolutionnaires de l'histoire, en l'occurrence la Révolution russe, avant que les bolcheviks finissent par installer leur funeste dictature et tuer dans l'œuf la révolution des soviets et de la démocratie directe. Ce fut quand même un grand moment, une grande lueur à l'Est qui changea le cours de l'histoire. Et depuis ce 8 mars 1917, plus précisément depuis 1921, le 8 mars est un jour de lutte pour le droit des femmes qui a été lancée. Et aujourd'hui, comme hier, la grève, comme en 1917, la grève, c'est un outil puissant pour obtenir satisfaction et pour promouvoir un certain nombre de revendications. En Espagne, par exemple, le mouvement féministe qui s'est, depuis plusieurs années, armé de la grève pour faire reculer les violences jusqu'à obliger l'État à déployer un certain nombre de moyens, a fait que tout simplement, aujourd'hui, il y a deux fois moins de féminicides en Espagne qu'en France. C'est quand même assez significatif. On peut citer aussi le cas de l'Argentine, puisqu'en Amérique latine, cette journée du 8 mars, elle est particulièrement populaire. En Argentine, la grève des femmes a déplacé la balance en leur faveur et a permis notamment de gagner un droit fondamental pour librement disposer de son corps et de sa sexualité, qui est le droit à l'avortement. Ce 8 mars, on voit bien que la grève, c'est quelque chose d'important, et ça l'a été aujourd'hui. Ça l'a été aujourd'hui en synergie avec la mobilisation pour les retraites, puisque ce matin, à 11h, il y avait un rassemblement qui était appelé par l'intersyndicale du Rhône, unitaire, qui se mobilise contre la réforme des retraites. Un rassemblement qui a rassemblé près d'un millier de personnes devant le MEDEF, où une délégation féminine et féministe a été reçue pour faire l'éclairage sur la question des femmes dans le monde du travail et pour rappeler que les femmes, elles risquaient d'être parmi les catégories des personnes les plus impactées, les plus précarisées par ce projet de réforme des retraites, et qu'à l'occasion de cette journée du 8 mars, il était important de rappeler que les femmes, elles étaient dans le monde du travail particulièrement exploitées et discriminées. On peut citer quelques chiffres qui ont été évoqués ce matin lors du rassemblement au MEDEF. Le fait que, tout simplement, en moyenne, les femmes, elles gagnent 28,5% de moins que les hommes à qualification égale et pour un même poste de travail. Qu'aujourd'hui, 59% des salariés payés au SMIG, c'est des femmes. Et puis encore, 79% des salariés à temps partiel, ce sont des femmes. Les femmes, elles sont plus à temps partiel, les femmes, elles sont plus souvent au SMIG, et les femmes, elles sont moins payées que leurs collègues masculins dans le monde du travail. Véritable source d'inégalité qu'il fallait rappeler. Les femmes seront parmi les catégories les plus impactées par cette réforme du retraite. Autant de choses qu'il était important à rappeler aujourd'hui, en ce 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes, à l'occasion de ce rassemblement devant devant le MEDEF ce matin à Mermoz, à Lyon, dans le 8e arrondissement. Et puis, au-delà de ce rassemblement intersyndical et interprofessionnel pour le droit des femmes ce matin, dans le cadre de la mobilisation sur les retraites, il y avait, bien sûr, cet après-midi, l'initiative dont on vous a déjà largement parlé, du collectif pour le droit des femmes 69, collectif auquel fait partie d'ailleurs l'UCL, l'Union communiste libertaire, qui a appelé à un rassemblement à 18h place Bellecour, suivi d'une manif qui s'est mise en route simplement vers les 18h30. Une manif qui a rassemblé là aussi de très nombreuses personnes, de très nombreuses femmes et de très nombreux hommes aussi, dans laquelle l'intersyndicale du Rhône était présente avec une banderole unitaire pour apporter son soutien et faire le lien avec la mobilisation sur les retraites. Et à l'heure qu'on vous parle, la manifestation doit à peine être finie, elle se terminait place Jean Masset, en tout cas qui a été de nouveau une véritable réussite et qui, au-delà de la mobilisation des femmes sur la question des retraites et dans le monde du travail, rappelait les nouveaux droits dans l'espace domestique, dans l'espace public, dans la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences sexistes qui pouvaient être faites aux femmes, mais plus généralement aussi aux minorités de genre, par exemple les identités sexuelles. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire par rapport à cette journée du 8 mars, journée importante. Bien évidemment, la lutte pour le droit des femmes, elle ne doit pas s'arrêter au 8 mars. Elle a lieu hier, elle aura lieu demain encore. Le 8 mars, c'est simplement une date importante pour la mettre en avant et pour faire converger toutes ces revendications qui ont lieu tout au long de l'année et on le rappelle encore une fois, qui sont internationales. Voilà, c'est avec cette grosse page sur cette journée du 8 mars et ces mobilisations sur les retraites qu'on voulait terminer cette première page de cette émission Idées Noires. On va faire une première pause musicale et puis on vous l'a annoncé au début de l'émission. Après cette pause musicale, on va recevoir nos invités. Nos invités, c'est deux camarades du collectif Solidarité Migrants 69 qui vont venir nous parler de l'actualité de la solidarité avec les migrants et des initiatives qui ont été prises notamment cette semaine en solidarité avec les migrants. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union communiste libertaire, sur ce 102.2 de Radio Canu. Et première pause musicale, et bien évidemment, on retrouve l'hymne des femmes à l'occasion de cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes, et une version de cet hymne des femmes très très joliment interprétée par la compagnie Joli Môme. Debout,
Un petit son de manifestation pour le droit des femmes aujourd'hui partout en France à l'occasion de ce 8 mars. Et on vous parlait de la manifestation lyonnaise. On a les chiffres qui sont sortis. Près de 15 000 personnes étaient dans les rues à Lyon aujourd'hui pour revendiquer, défendre le droit des femmes dans le cadre de cette journée de lutte internationale. Vous êtes toujours sur ce 102.2 de Radio Canu, à l'écoute de l'émission Idées Noires, comme tous les mercredis de 20h à 21h. On vous l'a annoncé en début d'émission et avant cette pause musicale. On a des invités aujourd'hui, puisqu'on a deux camarades de représentantes du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse qui sont avec nous, Zoé et Mila. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue à l'antenne. On est ravis de vous accueillir une nouvelle fois sur cette antenne de Radio Canu pour nous parler de l'actualité, de la solidarité avec les migrants. Est-ce que, pour commencer, pour nos auditeurs, vous pourriez peut-être rappeler, présenter rapidement le collectif, ses origines et puis ses objectifs ?
Oui, du coup, le collectif, c'est un collectif citoyen militant qui a pour valeur principale la régularisation et l'accueil digne de tous les sans-papiers. À l'échelle locale, du coup, ça va être la mise à l'abri de jeunes mineurs isolés, mineurs non accompagnés, qui sont remis à la rue suite à une évaluation de refus de minorité par Forum Réfugiés. Donc nous, on fait de la mise à l'abri d'urgence pour ces personnes-là.
Et sinon, en termes de, pour parler de l'origine un peu du collectif, c'est un collectif qui s'est formé autour du collège Maurice Sem, donc un squad qui était à Croix-Rousse. Qui a accueilli pas que des mineurs isolés étrangers, mais qui s'est un peu focalisé là-dessus, du coup. Enfin, le collectif s'est un peu recentré là-dessus ces dernières années. Donc, il y a eu plusieurs squads différents, le collège, il y a eu des campements, il y a eu le chemineur chez Gemma, voilà, un autre campement. Et maintenant, on est sur plusieurs lieux différents, des gymnases, le café mineur, le squad du passage à Croix-Rousse, le nouveau lieu qui a ouvert. Lundi, et on essaye aussi, le collectif, on essaye aussi d'avoir un impact national en militant pour la présomption de minorité, et on fait partie de la coordination nationale jeunes exilés, où on se met en relation avec d'autres collectifs qui s'occupent des MNA dans d'autres villes que Lyon.
Les MNA, les mineurs isolés.
Mineurs non accompagnés ou mineurs isolés étrangers, oui.
Les personnes qui font partie du collectif, elles ont aussi... comme rôle de la mise en lien avec des associations comme l'AMI qui vient en aide pour les recours juridiques ou des personnes qui sont là pour mettre en lien par rapport à l'accès aux soins.
Alors, nombreuses activités et puis l'important c'est aussi de populariser ces activités, de rendre visible la situation des mineurs non accompagnés, des mineurs isolés. Dimanche, il y avait un nouveau dimanche solidaire. C'est une initiative qui est régulièrement organisée à la Croix-Rousse par le collectif.
Oui, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Le dernier, je ne sais plus à quand il remonte, c'était l'année dernière, l'été dernier, ou en juin dernier, je crois. Et oui, c'est quelque chose qu'on remet en route là, donc le premier qui était un succès, le premier dimanche solidaire de l'année. Et il y en aura un autre début mai,
ouais, le prochain. Le 11 mai, il me semble.
D'accord, donc des journées à la fois conviviales et à la fois de solidarité qui permettent à la fois de sensibiliser à la situation des mineurs non accompagnés, puis de récupérer les sous pour tout simplement répondre aux besoins du quotidien de tous ces jeunes et à l'organisation des activités qui tournent autour.
Oui, et ce dimanche-là, on a aussi fait signer une pétition pour la création d'une station... enfin de plus de places pour prendre en charge ces mineurs qui sont en recours. Et donc c'est une pétition qu'on voudrait que les premiers signataires soient des organisations syndicales, des grandes associations lyonnaises qui défendent le droit des mineurs isolés étrangers, mais aussi le droit des étrangers, puisqu'on est aussi un collectif du coup qui militons pour la régularisation des sans-papiers, contre la loi Darmanin qui va venir, tout ça.
Alors cette pétition, on peut la trouver où par exemple ?
Alors, on pouvait la lire au dimanche solidaire. Je ne sais pas si elle est. Alors, elle doit être disponible sur le site du collège Maurice Sem et je pense qu'elle a été publiée sur les réseaux ou qu'elle va l'être bientôt. Donc sur le Facebook collectif Soutien Migrants Croix-Rousse.
Peut-être juste pour éclaircir le dispositif des stations, c'est un dispositif qui est mis en place par la métropole pour l'accueil des mineurs non accompagnés qui sont en recours juridique pour la validation de leur minorité. Et donc, c'est des endroits qui sont un peu, qui permettent un peu plus de stabilité, où ils sont sûrs d'avoir de la nourriture tous les jours, où ils sont accompagnés par des éducateurs, des animateurs. Et donc, en fait, le collectif souhaiterait que la métropole, qui est en fait censée s'occuper des mineurs non accompagnés, mette en place plus de dispositifs pour que ça ne soit pas à des personnes citoyennes de prendre la relève de ce côté-là.
Alors dimanche, il y avait le dimanche solidaire, et puis lundi, il y a eu une action un peu d'une autre dimension qui a eu lieu et qui rythme, je suppose, une grande partie des actions du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse. Est-ce que vous pouvez présenter cette action ?
Oui, alors le samedi au matin, on a commencé à occuper un lieu au 13 rue Néré. Donc on est du coup sur l'ouverture d'un nouveau squat avec l'officialisation qui s'est faite lundi matin. En ce moment, on a 46
presque une cinquantaine
de mineurs non accompagnés qui sont à la rue, et parce qu'on n'avait plus de place dans les squats ou dans les dispositifs mis en place par la mairie. Et du coup, c'est ce lieu qui va permettre de les mettre à l'abri en attendant qu'ils soient soit acceptés dans les stations, soit reconnus mineurs et donc pris en charge par l'aide sociale à l'enfance.
Non, c'était pour dire que l'ouverture d'un lieu, elle était vraiment nécessaire, elle se faisait sentir, parce que on a besoin en fait de places qui soient pérennes. Et pas, par exemple, la mairie avait ouvert un gymnase, mais elle a fermé les places, donc c'était 60 places nominatives, et c'était pas renouvelé, alors qu'en fait, il y a des mineurs non accompagnés qui sont remis à la rue constamment, c'est à peu près 10 par semaine. Du coup, il y a 10 jeunes par semaine qui sont remis à la rue, et nous, on se retrouvait avec ces jeunes-là sur le bras, et il n'y avait plus d'endroit où faire entrer ces nouveaux remis à la rue, ces nouveaux refusés.
Ce qui était de plus en plus visible, puisque depuis quelques semaines, on avait vu sur les pentes de la Croix-Rousse, montée de la Grande Côte, refleurir malheureusement des tentes, des panneaux dénonçant la situation, et de nombreux jeunes qui, en effet, étaient clairement à la rue et exprimaient un besoin crucial d'une solution d'hébergement. C'est pas la première fois que le collectif participe à un squat, vous l'avez dit, il y avait l'expérience du squat chez Gemma, place Chardonnay, qui malheureusement avait fini suite à une dégradation incendie qui avait été obligé de quitter le lieu. Cette nouvelle initiative, elle s'inscrit dans la continuité ?
Ouais, dans la continuité de Gemma, c'est un peu un squat qui va être dans les pentes aussi. On va être en plus sur deux lieux. Il y avait chez Gemma et le Chemineur. Maintenant, il y a le squat du passage et il y aura le squat rue Néré, qui sera plutôt pour les premiers refusés. Alors, c'est pas comme ça que s'organiser le Chemineur et Gemma, pas tout à fait, mais du coup, là, l'idée, c'est vraiment. En plus, on est à deux pas de forum réfugiés. Du coup, ceux qui mettent à la rue les mineurs isolés étrangers. Ce serait pour les nouveaux remis à la rue. Et voilà, on craint aussi que ça soit pas forcément suffisant. Mais c'est aussi pour nous, c'est pas une solution durable, en fait. C'est pour ça qu'on milite pour la création de nouvelles places en station. On ouvre des squats, pas pour que ça dure, mais pour que. Parce qu'en fait, à la suite du Chemineur, à la suite de la fermeture du Collège Maurice-Ève, à la suite du Chemineur, c'est là que les stations ont été créées. Donc c'est là qu'on a eu des victoires. Donc pour nous, en fait, ouvrir un squat, c'est pas la fin de la bataille, c'est que le début, et on espère comme ça convaincre les institutions d'ouvrir des lieux d'hébergement et avec des places qui soient pérennes.
Jusqu'à combien de temps est-ce que ça peut prendre pour un mineur isolé de se faire prendre en charge officiellement par...
En moyenne, on dit que c'est à peu près 6 mois. 6 mois où il n'y a aucune prise en charge... pas d'éducateur, pas d'accès, enfin un accès aux soins très difficile, une scolarisation, on arrive à les scolariser avant, mais c'est compliqué, pas de logement.
Et tout ça en plus, même s'ils arrivent à se scolariser, c'est des choses qu'ils doivent faire eux-mêmes, qui pour le coup c'est vraiment livrés à eux-mêmes pour toutes les démarches qu'ils doivent entreprendre.
C'est eux-mêmes et avec du coup des collectifs de citoyens.
Ouais, vous.
Ça a été un choix stratégique d'ouvrir ce squat avant la fin de la trêve hivernale ?
Je pense que ça répondait surtout à un besoin urgent, en fait, là, de loger ces personnes. Après, on s'est retrouvé dans une position un petit peu délicate, parce qu'en ce moment, il y a eu des conventionnements qui étaient faits pour différents lieux pour une centaine de jeunes qui étaient faits par la mairie centrale. Par la mairie centrale.
Oui, la ville de Lyon. Ouais. Ouais.
Par la ville de Lyon. Donc un gymnase, un espace qui disent autogéré, donc comme un squat, mais conventionné. Et aussi les filles qui étaient, hébergées dans un EHPAD. Par rapport à ça, on a l'ouverture de 10 places en station pour les filles à ce moment-là. Mais à la fois, on a la fin des conventionnements qui approchent pour ces différents lieux. Et on a aussi le squat du passage qui a été le dernier squat ouvert qui vient de rentrer en procédure judiciaire contre la mairie. Donc voilà, il y a différentes stratégies qui s'entrecroisent, mais la fin de la trêve hivernale, c'est pas forcément la première... qui nous a apparu.
Aujourd'hui, tu peux le rappeler, du coup, il y a combien de personnes qui sont hébergées dans ce nouveau squat ?
Dans le nouveau squat qui vient d'ouvrir rue Néré, ça sera 45 pour l'instant.
Ok, et auquel, au passage, dans le quatrième ?
C'est 36 personnes. Ouais.
Donc on voit que c'est quand même un phénomène qui regroupe des dizaines de personnes et qui est un phénomène d'ampleur qui à l'échelle des deux arrondissements de Lyon, qui dure, qui s'installe dans le temps, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on est confronté à cette situation et que la solidarité est active. Justement, par rapport à tous ceux qui vous écouteraient aujourd'hui et qui souhaiteraient apporter à l'auteur leurs moyens, leur contribution, c'est quoi les différentes formes de soutien, les besoins, les solidarités au sein du collectif, éphémère, de passage, ponctuel? Comment on peut soutenir cette lutte et aider cette solidarité envers ces jeunes mineurs isolés?
Et ben, déjà, une première chose, c'est de venir nous rencontrer sur les différents lieux où on se trouve, donc que ce soit au passage, donc dans le quatrième vers Hénon. Là, il y a des permanences qu'on essaye de tenir entre soutien pour à la fois écouter les jeunes et puis recevoir de nouveaux soutiens. Donc, les permanences, elles sont 4 ou 5 fois par semaine. C'est plutôt en fin de journée du 17h-20h. Je sais qu'il y a le lundi 17h-20h, le mardi aussi. Jeudi, vendredi, donc des fois c'est... En fait, tout est en... ça doit être affiché sur... Il y a une page Facebook, Le Passage, où il y a, je pense, les horaires des permanences sont affichés. Donc ça, c'est nous rencontrer, c'est déjà très chouette pour qu'on explique en détail quelles sont les différentes manières de s'impliquer. Il y a Le Passage, mais il y a aussi le gymnase Rosset, là, qui a un lieu à Debourg. Le Passage, c'est au 55 rue Henri Gorju. Là où vous pouvez nous trouver. Il y a le gymnase qui est donc plutôt vers Debourg. Il y a le café mineur, donc là qui va fermer fin mars, et qui est rue Paul Bert dans le 3e. Et puis donc, le nouveau squat 13 rue Néré, où là on va avoir besoin de bras, de voitures, de mobilier, de bricoleurs et bricoleuses, mettre. Les legs, faire de la plomberie, installer des lits, des mezzanines, des lits superposés. Et tu veux parler peut-être des différentes formes, maintenant j'ai les différentes formes d'engagement.
Ouais, on a, au sein du collectif, on a toutes et tous un engagement qui est assez hétéroclite. Il y a des personnes qui sont plus sur la présence quotidienne, qui vont relever des besoins directs des jeunes et tout ça, qui est d'ailleurs composé essentiellement de femmes. À l'heure qu'il est. Des personnes qui sont là plus pour du bricolage, pour l'intendance, pour la mise en lien avec les différentes structures associatives. Sur la semaine qui vient, pour l'installation du 13 rue Néré, on va avoir besoin de véhicules de transport, notamment pour des lits superposés. Du petit mobilier de cuisine. En fait, on met à jour souvent la liste des besoins sur le compte Facebook du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse. Donc, c'est à cet endroit-là que vous pouvez trouver nos besoins. N'hésitez pas à consulter ça et à nous envoyer un message avant de venir déposer des dons, parce que des fois, ça peut être compliqué un petit peu, la gestion des dons. On a l'impression qu'on veut bien faire, mais parfois, ça peut être un peu trop pour nous. N'hésitez pas à envoyer un message. On fait des assemblées générales aussi. Le dimanche soir, si vous avez envie de venir poser des questions, de vous investir, on est en train de travailler aussi sur l'intégration des nouvelles personnes au collectif, donc ça sera l'occasion un peu de nous tester autour de ça. Ça pourrait être chouette.
Assemblée générale qui se tienne, du coup, dans le nouveau squat rue Néré ?
Ça dépend des fois. Ça dépend des fois, mais en fait, je pense que c'est bien de venir au passage pour, pendant les permanences pour se tenir informé des actualités. Comme ça, on change un peu. Mais sinon, après, y a, en termes de forme d'engagement, il y a plein de... Il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a des gens qui veulent faire de l'aide au devoir, ça marche. Enfin, il y a beaucoup besoin de ça. Juste des accompagnements des jeunes à leur rendez-vous santé, leur rendez-vous scolaire. Et puis, comme tu disais, plus de la gestion quotidienne. Du coup, si on peut mettre sa vie, enfin, on peut y passer sa vie ou alors juste quelques heures par semaine.
Donc chacun peut mobiliser ses compétences et le temps en fonction de ce qu'il peut donner. Mmh. N'hésitez pas donc à consulter la page Facebook collectif soutien migrants Croix-Rousse, mmh. se rendre aux permanences du passage pour pouvoir participer ou proposer son aide sur ces différentes activités que vous venez de citer. Les perspectives pour vous, c'est quoi ? Comment vous voyez les perspectives pour le collectif ?
En fait, je pense que ce collectif, si on atteignait tous nos objectifs, n'existerait plus à terme. L'idée, ça serait que la métropole, l'État, la région prennent ses responsabilités et s'occupent de ces jeunes et qu'on ne soit pas obligé de les mettre dans des situations qui sont complètement précaires et dans lesquelles ils vivent à quatre dans des chambres et ils savent pas vraiment s'ils vont manger. Enfin, voilà. En fait, l'idée, la suite du collectif, ça serait qu'il n'existe plus, pour moi.
Et malheureusement, un collectif qui risque d'être fait pour durer et de perdurer dans le temps au vu de la situation politique et sociale, d'où son importance de cette solidarité qui peut être faite avec les migrants en général et notamment les jeunes mineurs isolés. Vous avez parlé donc toutes les actions qui se mènent auprès de ces jeunes mineurs isolés, qui se mènent à l'échelle du quartier, mais vous l'avez dit, votre combat il s'inscrit dans une mobilisation plus large de solidarité sur la question des migrants et je dirais de l'ouverture des frontières en général. Il y a d'autres rendez-vous dans lesquels vous êtes impliqués ?
Oui, vendredi à 18h à la Bourse du Travail. Il y aura une réunion qui va présenter la loi Darmanin et pourquoi il faut être contre, en présence d'avocats et d'avocates. Donc on y sera et on a un peu diffusé l'événement. Donc le collectif s'inscrit clairement contre la loi Darmanin. Et puis d'autres rendez-vous, peut-être plus locaux. Demain, il y a un conseil municipal où nous, on va être présents. Par rapport à la fermeture des lieux là, qui nous sont tombés dessus, café mineur, le retrait de la mairie dans la question des MNA. Donc à 11h, on sera à l'hôtel de ville. Là, si vous voulez aussi venir nous voir pour parler, on sera là. Et le 27 mars, il y a un conseil métropolitain. Et là, on a prévu des actions donc d'amener cette pétition, justement, devant la métropole. Et d'aller taquer à la porte de la métropole. Parce qu'on est toujours en train d'aller voir mairie, métropole et préfecture. C'est vraiment les trois institutions avec lesquelles, vers lesquelles on va réclamer la prise en charge des mineurs isolés. Métropole et préfecture surtout.
Très bien. Merci en tout cas de votre témoignage, de votre engagement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, que vous auriez souhaité rajouter ?
C'était juste un moment pour préciser les chiffres. En fait, du nombre de jeunes... actuellement, dont s'occupe le collectif, c'est à peu près 180 jeunes du coup laissés à la rue, et c'est à peu près c'est un chiffre qui est plutôt constant quoi qu'on observe. C'est un flux, enfin c'est une arrivée permanente. On est toujours à peu près à ce chiffre-là de 180 mineurs isolés à la rue, voilà. Et du coup, c'est à terme, nous on pense qu'il faut que actuellement il y a 92 places en station, donc il faut pour nous au moins doubler ce nombre. La capacité d'accueil. Et Lyon se dit ville accueillante. Du coup, on a envie que ça se fasse dans les faits. Quoi.
Et que ça ne soit pas qu'un discours incantatoire et des belles paroles affichées qui ne correspondent pas à la réalité, malheureusement. Donc, il est important de le rappeler aux politiques de tout poil qu'il faut être capable de tenir ses engagements. On vous remercie en tout cas pour votre témoignage, pour votre engagement. On le rappelle, allez faire un tour sur la page Facebook du collectif Soutien Migrants Croix-Rousse. Rendez-vous aux permanences au squat Le Passage rue Henri Gorju. Et puis rendez-vous le prochain dimanche solidaire au mois de mai. On ne manquera pas de relayer la date dès qu'elle sera posée sur cette antenne de Radio Canu sur Idées Noires, afin que vous soyez nombreuses et nombreux à pouvoir vous y rendre pour continuer à faire vivre cette solidarité indispensable envers les jeunes mineurs isolés et les migrants en général. Merci, bonne continuation et bonne lutte à vous.
Merci à vous.
On va continuer avec une deuxième pause musicale sur cette émission Idées Noires. On retrouve une nouvelle fois la compagnie Joli Môme avec justement un morceau qui est tout à fait adapté à ce qu'on vient d'évoquer. Ils arriveront quand même, parce qu'on le sait, c'est pas par la répression qu'on effacera la misère, les guerres et les différentes formes d'exploitation, et ceux qui cherchent à les fuir et qui cherchent à venir à refaire leur vie ici. Au contraire, c'est simplement par la solidarité et l'égalité qu'on pourra changer les choses. Joli Môme, ils arriveront quand même sur ce 102.2 de Radio Canu.
Tant que la peur change.
Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble.
Ils arriveront quand même, malgré les murs, malgré les mers, malgré les murmures amers ou les déclarations guerrières. Ils arriveront quand même, car ils sont jeunes et qu'ils n'ont rien, pas même l'espoir que demain soit différent de ce matin. Ils arriveront quand même, les enfants rêvant de pactole, devant nos télés qui racolent, mirage en boucle et parabole. Ils arriveront quand même, car nos experts savent qui fait. Le travail au noir, ça nous sert, salaire aux enchères, à l'envers. Ils arriveront quand même, cueillir nos fruits, monter nos tours, sans rechigner jour après jour, au terminable en arrière-cours. Ils arriveront quand même, car nos règles, nos lois, nos marchés remplissent nos supermarchés, commerce équitable à pleurer. Ils arriveront quand même, malgré les murs, malgré les mers, malgré les murmures amers ou les déclarations guerrières. Ils arriveront quand même et rien ne saurait remplacer toutes ces vies qui sont volées, et rien ne saurait excuser les rafles et les enfants traqués. Ils arriveront quand même dans les citernes ou les avions, entre les essieux des camions, par-dessus les barbelés, nos frontières électrifiées. Ils arriveront quand même, ils arriveront quand même, ils arriveront quand même, ils arriveront quand même.
Ils arriveront quand même, nous chante la compagnie Joli Môme, qui fait écho à cette solidarité avec les migrants dont nous a fait part donc le collectif Solidarité Migrants Croix-Rousse, dont on ne manquera pas, on vous l'a dit, de répercuter les différentes initiatives sur cette antenne de Radio Canu, puisque vous êtes toujours, comme tous les mercredis de 20h à 21h, à l'écoute de l'émission Idées Noires, l'émission de l'UCL. Et on va terminer par quelques infos d'actualité sociale. Tout d'abord, en lien avec la mobilisation sur les retraites, une triste initiative antisyndicale.
Oui, on vous parlait tout à l'heure de l'arrestation de camarades. Là, il s'agit carrément d'une agression qui a eu lieu à Chambéry dans la nuit du 5 au 6 mars, la veille de la dernière manifestation. Donc, les locaux de la maison des syndicats de Chambéry ont été attaqués, plusieurs tags et trois véhicules ont été incendiés. Le communiqué de Solidaires rappelle que s'en prendre aux syndicats, c'est se ranger du côté des capitalistes qui craignent aujourd'hui plus que tout que la France soit à l'arrêt. S'en prendre aux syndicats, c'est se ranger du côté du patronat en méprisant les seules organisations gérées par et pour les travailleurs et travailleuses, s'en prendre aux syndicats, c'est se ranger du côté de la réaction contre les forces sociales, s'en prendre aux syndicats, c'est se faire le chien de garde de ce système capitaliste qu'il nous faut renverser. Ces méthodes sont celles de Squadristi, de Sinistre Mémoire. Les premières cibles des fascistes ont toujours été les maisons du peuple et les organisations syndicales. Quand le mouvement social est puissant, les capitalistes ont toujours trouvé dans les fascistes des alliés pour tenter de faire taire la révolte populaire et sociale. Face à ces violences, ces provocations, nous ne céderons rien. C'est dans la rue que nous nous battrons et que nous ferons entendre et imposerons nos revendications pour toujours plus de solidarité et de justice sociale. Fascistes et capitalistes sont les deux faces d'une même pièce. Et le communiqué de conclure antifasciste parce que syndicaliste. Une fois n'est pas coutume, le pouvoir politique a pris la mesure de cette attaque. Le maire de Chambéry, Thierry Repentin, pourtant socialiste et ministre sous Hollande, dénonce lui une atteinte grave aux libertés syndicales. Il a aussi communiqué son soutien et sa solidarité aux militantes et militants et responsables de syndicaux touchés par ces dégradations. Je cite, « Dans cette période de mobilisation sociale forte, dans un contexte de réforme portée par le gouvernement et à laquelle la majorité des Français est opposée, l'action des syndicats comme des corps intermédiaires est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie sociale. Dans une démocratie à un état de droit, rien ne peut justifier de telles dégradations et de telles insultes. J'espère vivement que les auteurs de ces dégradations pourront être identifiés et condamnés. Propriétaire des bâtiments, la ville de Chambéry va déposer ses plaintes. » Donc au moins, le pouvoir essaye d'agir.
On avait prévu de faire un petit compte-rendu sur le procès de Vincenzo qui avait eu lieu il y a maintenant une dizaine de jours à Lyon. Mmh. Malheureusement, il nous reste à peine 2 minutes. Je te propose, Rémi, qu'on reporte ça à une prochaine émission Idées Noires.
Oui.
Peut-être qu'on y avait quelques sons à écouter, faire un petit compte-rendu de ce procès, dont le verdict est toujours en attente pour l'instant.
Oui, il sera le 24 mars, donc effectivement, on peut en parler la semaine prochaine. J'imagine qu'on aura peut-être même quelques nouvelles en plus.
Tout ça parce qu'il nous reste 1 minute et demie pour terminer cette émission d'Idées Noires. C'est très court et on a quelques rendez-vous à vous rappeler. Tout d'abord, ce samedi à la librairie La Plume Noire, une discussion débat.
Oui, sur les méga-bassines, ce sera donc à La Plume Noire, 8 rue Diderot, à partir de 18h. Ce sera après la manifestation donc, du 11. Ce sera une discussion publique animée par le collectif Soulèvement de la Terre. Et puis on vous rappelle toujours notre petite tirelire à prix libre pour si vous voulez participer à la caisse de grève féministe.
Et tu l'as dit, les autres rendez-vous, c'est bien sûr les mobilisations autour du projet de réforme des retraites, samedi, donc manifestation populaire à 14h, place Jean Massey. On vous attend nombreux et nombreuses, mais d'ici là, il y a d'autres rendez-vous de lutte, demain, des actions de blocage, et puis manifestation jeune, auquel tout le monde est appelé à se joindre à 14h, place Jean Massey, et puis aussi pour soutenir les AESH et les travailleurs précaires de l'éducation, 14h devant le rectorat dans le 7e arrondissement de Lyon. Deux rendez-vous de lutte en attendant cette nouvelle grande journée de mobilisation samedi, et puis une nouvelle journée de grève interprofessionnelle la semaine prochaine, certainement mercredi certainement dans la matinée, et le soir au CCVA de Villeurbanne à 15h, à partir de
18h30 jusqu'à 22h30, faites la grève numéro 2, la deuxième édition d'une soirée concert, prise de parole, manger et boire, table de presse. C'est au CCVA de Villeurbanne, au 234 cours Émile Zola. Voilà, c'est au profit donc des caisses de grève contre la réforme des retraites.
Voilà, c'était l'émission Idées Noires, l'émission de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. On vous retrouve comme d'habitude mercredi prochain de 20h à 21h pour une nouvelle édition. Et puis moi, je vous retrouve juste après notre générique pour la bande-son de nos révoltes.
Bonne soirée.